Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 88. Et le numéro 88, c'est celui de Robert Kubica qui va revenir cette fin de semaine pour remplacer encore une fois Kimi Raikkonen qui se remet de son test positif à la COVID-19. Kubica, évidemment, qui aurait pu avoir une longue carrière en Formule 1, a remporté le Grand Prix du Canada 2008, sa seule victoire en Formule 1 jusqu'à présent, a une pole position dans la même année en 2008, a roulé pour BMW Sauber, pour Renault, aurait pu rouler pour Ferrari. Là, il y a eu un pré-contrat pour 2012, mais il a eu son accident de rallye, malheureusement, qui a carrément... presque mis à sa carrière de pilote de Formule 1. Mais il est revenu, il a fait quelques courses de rallye, il a participé à la saison 2019 chez Williams à côté de certains George Russell et a perdu malheureusement les 24 heures du Mans dans le dernier tour, dans la catégorie LMP2, alors qu'il roulait pour WRT. Donc ça, c'était il y a quelques semaines de cela. Alors, cette semaine, on va parler du marché des transferts parce que c'est ce qui retient l'attention cette semaine. On a eu des confirmations de mouvements de personnel, de prolongation de contrats, encore même aujourd'hui. Et à la fin, nous allons parler de la situation chez Haas qui ne semble pas être au beau fixe en ce moment. Et pour en parler, j'accueille, comme à l'habitude, mes deux collaborateurs, Ana Maria Mercado López et Marc-André Fortin. Bonjour à vous deux.
Salut Abdou.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. On est dans un moment très intense en Formule 1 avec tout le remue de toutes les écuries, donc c'est toujours une période très intéressante.
Oui, exactement. Écoute, si au hockey, il y a le marché des joueurs autonomes le 1er juillet en temps normal et la date limite des transactions, ici en Formule 1, août, septembre, c'est le début des confirmations de mouvements de personnel.
Et c'est notre bonbon.
C'est notre bonbon à nous, en fait. Au moins, il y a plus d'actions que à la date limite des transactions.
Oui.
Donc, on va y aller dans l'ordre chronologique. Donc, tout a commencé cette semaine, je pense que c'était lundi, lorsque Alfa Romeo a annoncé que Finlandais allait arriver chez l'écurie. Et non, on ne parle pas de Kimi Raikkonen, puisqu'on vous rappelle, il a annoncé sa retraite la semaine dernière avant d'être testé positif. Eh bien, c'est Valtteri Bottas qui ira chez l'écurie Italo-Suisse à partir de la saison 2022. Alors, je vais tout de suite vous demander vos réactions sur l'arrivée de Bottas chez Alfa Romeo. Je vais commencer par Marc-André.
Écoute, je ne suis pas surpris. En même temps, je pense que j'aurais peut-être eu un petit penchant pour une arrivée de Bottas chez Williams, son ancienne écurie, son ancien amour et tout ça. Williams qui poursuit sa progression alors qu'elle était la pire écurie de l'histoire de la Formule 1. Là, depuis que je surveille la Formule 1, c'était la catastrophe chez Williams. Et de plus en plus, on voit que cette écurie revient dans les bons eaux, même si ce n'est pas une puissance encore. Elle revient quand même à un niveau potable, si je peux dire ainsi. Oui, il y a le fait que George Russell est un pilote extraordinaire et qu'il réussit à profiter du maximum de cette voiture, mais on a vu qu'un Nicolas Latifi pouvait bien s'en tirer sur certains circuits, et ça, c'est encourageant pour les pilotes qui vont vouloir rentrer chez Williams, on en parlera plus tard. Mais pour ce qui est de la situation de Bottas, on s'y attendait. Je pense qu'on savait tous que ça allait être sa dernière saison chez Mercedes. Et puis, il est allé dans une option assez intéressante. Il poursuit le chemin qu'un ancien Finlandais avait fait également en Kimi Raikkonen. C'est un pilote d'expérience qui peut aider cette écurie à continuer sa progression. Maintenant, j'ai un petit doute. Je pense que dans les prochaines années, Williams prendra peut-être un petit peu plus l'ascendant que Alfa Romeo. Mais encore là, ils peuvent nous surprendre avec des surprises et des modifications de voiture qui peuvent à être assez intéressant. Puis Bottas, je pense que, comme il le disait dans une entrevue avec Pierre Rudd avant le Grand Prix du Pays-Bas, ils ont eu une entrevue exclusive avec lui, et avant même que l'annonce soit effectuée, il a un petit peu mentionné à Pierre-Houde qu'il aimait son prochain contrat parce que ça lui permettait d'avoir de la stabilité avec un contrat sur plusieurs saisons, chose qu'il n'a jamais eue depuis qu'il est avec Mercedes. Ça fait plusieurs années qu'il jongle entre une année et l'autre sans savoir réellement où il va être. Donc, pour lui, honnêtement, je pense que ça peut juste lui faire du bien d'avoir de la stabilité, de voir, bon, on parle de stabilité en Formule 1, bien sûr, là, tout peut se passer, mais du moins, peut avoir un petit peu la tête plus reposée, penser à sa conduite et tout va bien se passer.
Et Anna Maria, j'ai envie de te poser la question parce que Marc-André a parlé de stabilité, en effet, parce que Bottas a dit qu'il a signé un contrat de 3 ans, ce qu'il n'a jamais eu avec Mercedes parce que c'était des contrats renouvelables à chaque année. Alors, est-ce que tu penses que Bottas, ce genre de contrat peut lui redonner, en fait, un nouvel élan? Parce que je sais que c'est chez Mercedes, bah, les gens ont vu que Bottas, bon, c'était pas aussi joyeux que ça l'a été lors de son passage chez Mercedes. Mais est-ce que tu crois que ça peut donner au moins un vent de renouveau pour le Finlandais?
Mais je pense pas, juste pas pour le temps de contrat, je pense qu'il va aller à Alfa Romeo. C'est une opportunité pour lui de s'exprimer lui-même, d'être le pilote, de piloter pour lui, je pense. Même s'il n'est pas dans une grosse écurie comme les Mercedes, il y a beaucoup de podiums chez Mercedes, même si on pense qu'il était pas assez performant, quand même, lui était toujours là quand Hamilton y a besoin de lui. Si on le demande plus, mais au moins maintenant, lui a l'opportunité de courir pour lui, de s'exprimer, même si c'est pas la meilleure voiture du plateau, au moins, il va s'amuser, j'imagine, parce que sinon, il n'aurait pas signé. Il a l'opportunité de faire mieux aussi. Je dis, peut-être qu'il ne va pas faire mieux que dans Mercedes, mais il fait mieux pour lui-même. Comme il le faisait à Williams, quand il était en Williams, c'était un bon pilote, c'est pour ça qu'il était appelé à Mercedes, mais maintenant, il est comme Barrichello, il va avoir l'opportunité après plusieurs années, à nouveau, de courir pour lui. Pas juste parce qu'il y avait besoin faire mieux pour Hamilton ou de l'équipe, qu'est-ce qu'il faisait tout le temps, mais juste pour lui, pour s'amuser, pour courir, pour piloter, parce que j'ai dit, si c'est pas pour ça, mais il n'aurait pas signé.
Et aussi, il faut aussi mentionner que ça va être la première fois depuis qu'il est en Formule 1 que Bottas va agir comme numéro 1. Parce que il faut aussi le rappeler, à l'origine, pour 2017, lorsqu'il avait un contrat chez Williams, il devait être le coéquipier de Lance Stroll qui était à son année recrue. Et ensuite, boum, Nico Rosberg annonce sa retraite. Donc, ce qui voulait dire que Bottas allait chez Mercedes pour remplacer Rosberg. Et Massa sortait de sa retraite pour parrainer Stroll. Et ensuite, là, cette année-là, pour 2022, peu importe avec qui il va être, on en reparlera un peu plus tard, mais au moins il va avoir le statut de numéro 1, ce qu'il n'a jamais eu en Formule 1, même en 2013, évidemment, quand il est arrivé comme recrue et qu'il avait Pastor Maldonado comme coéquipier. Alors, je pense que ça va donner un bel élan, en fait, pour lui, pour montrer que oui, il a eu un très bon parcours avec Mercedes, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être ça aussi qui me dérange un peu, c'est que on voit le passage de Bottas chez Mercedes comme étant un genre de dérision, de mini échec, parce que il n'a jamais été capable de rivaliser contre Lewis Hamilton. Et le truc,
il était pas là pour ça, c'est ça le problème. Bottas, il était pas là pour rivaliser avec Hamilton, c'était juste pour courir avec.
C'est ça, pour permettre à Mercedes de remporter le de garder sa couronne de champion des constructeurs. C'est ça aussi qu'il faut dire. Marc-André, est-ce que tu as on parle maintenant d'Alfa Romeo. Est-ce que tu crois que à partir on peut bien prédire toutes sortes de choses pour 2022 quand on est dans l'inconnu? Mais admettons qu'on connaît des choses. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Bottas va permettre à l'écurie de monter un peu plus, de se retrouver dans la bataille du milieu de peloton avec les Aston Martin, Alpine, AlphaTauri et compagnie?
J'ai de la difficulté, justement, tu parlais d'inconnus, j'ai de la difficulté à les saisir un peu. Cette année, ils sont dans l'inconstance. Cette écurie est dans l'inconstance. Donc, j'ai hâte de voir en 2022 qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous offrir. Pardon. Mais
pas de COVID.
Quand je regarde le portrait général, l'arrivée de Bottas ne peut pas nuire non plus. Maintenant, quel sera l'impact de Bottas? Est-ce qu'elle sera aussi grande que celle que Raikkonen a eue à son arrivée? On se souviendra que Raikkonen n'était pas un pilote fini lorsqu'il a quitté Ferrari. C'est juste que bon, les circonstances ont fait en sorte que Charles Leclerc, tout comme George Russell, ont tellement bien fait dans leur écurie sœur qu'honnêtement, on n'avait pas le choix de les faire monter. Puis même, j'ai pas peur de le dire, ça fait longtemps que je l'ai dit, moi, George Russell, ça fait longtemps qu'il serait dans Mercedes si j'étais le patron. Mais je ne l'étais pas. Donc, mais ça pour dire que Bottas a 32 ans, Bottas est encore dans... Je dirais pas dans la fleur de sa carrière, mais du moins, il a encore des très bonnes années devant lui. C'est un leader. C'est un gars, ben, du moins, on le croit, parce que si t'es capable de t'effacer autant pour que l'autre soit devant, honnêtement, il faut que tu sois un leader. Puis, j'ai hâte de le voir, justement, dans le siège du conducteur d'une écurie, dans un siège où il va pouvoir aider le futur de la Formule 1, en espérant que ce soit un jeune qui prenne la place, à Alfa Romeo. Maintenant, on va peut-être en parler tantôt, mais c'est tellement large, on ne sait vraiment pas qui va être là. Moi, j'ai un petit penchant. J'aimerais ça que Nyck de Vries prenne le volant. Mais encore là, écoute, on verra. Mais non, j'aime le fait que Bottas soit chez Alfa Romeo. Ça va pouvoir aider sa carrière. Ça va pouvoir aussi aider cette écurie à se trouver une identité, je crois, qu'elle n'avait pas nécessairement avec un gars comme Antonio Giovinazzi qui est un peu dans le laisser-aller, on dirait. J'ai de la difficulté à saisir le plan de match avec ces deux coéquipiers-là, entre Raikkonen et Giovinazzi. Donc, j'ai l'impression qu'avec Bottas, on a quelque chose de peut-être plus solide.
Et avant de passer à Anna Maria, évidemment, on est encore au stade de rumeurs, mais concernant le deuxième volant chez Alfa Romeo, il y a plusieurs hypothèses. Probablement qu'Antonio Giovinazzi reste
encore dans le portrait.
Il est encore dans le portrait. On parlerait même de Nyck de Vries, le champion du monde de Formule électrique pour la saison 2021. Je sais qu'il y avait Nico Hülkenberg à un certain point, mais je pense que les carottes sont pas mal cuites pour lui. Mm-hmm. Alors, et je sais que concernant de Vries, Frédéric Vasseur avait dit que il ne voyait pas vraiment l'utilité d'avoir un pilote recru pour 2022 dans son écurie. Alors,
je pense que... Non, Alfa Romeo, il est un peu dans l'inconnu. Mm-hmm. Parce que, comme disait Marc-André, cette année, c'était un peu délaissé, mais pas juste délaissé pour l'équipe. Il y avait beaucoup de collaboration avec Ferrari. Et tu sais, Ferrari, cette année, qui a pris toute la collaboration qu'il y avait chez Alfa Romeo, il l'a envoyé chez Haas. C'est ça, Alfa Romeo, qu'est-ce qu'il dit? Il veut à quelqu'un avec l'expérience, il a déjà pris Bottas, et la question est si il va rester ce douzième volant pour Ferrari, parce que c'est ça qu'est-ce qu'il y a sur Alfa Romeo, c'est que le douzième volant, c'est de Ferrari, et c'est pour ça que Giovinazzi est là, et je pense plutôt que lui essaie de négocier. Il veut pas un recrute parce que Nick Devi, si où il reste avec Ferrari, y a pas question. Lui, c'est un pilote à Mercedes, au moins que ça se passe quelque chose de différent. Je vois pas comment lui peut arriver chez Alfa Romeo. Et ça reste que où il aime plutôt rester avec Giovinazzi parce qu'il y a de l'expérience, parce que ça commence à donner des résultats. Mm-hmm. Et je pense plutôt que où il cherche peut-être Mick Schumacher, parce que c'est ça. C'est ça aussi. Où ils ne sont pas clairs avec tous les accords qu'il y avait avec Ferrari et qu'est-ce que dit Frédéric Bergson, que si ça arrive, que ça continue et demande un pilote avec un peu plus d'expérience. Mmh. Et c'est qui un pilote un peu plus d'expérience avec Ferrari? Ou ça reste Giovinazzi ou indirectement il va chercher Mick Schumacher.
Mais moi, j'ai hâte de voir dans une émission comme Drive to Survive si on va avoir un peu des réponses justement sur la relation entre Alfa Romeo et Ferrari qui, dans les dernières semaines, honnêtement, ils ne sont pas clairs. Est-ce que ces deux écuries travaillent encore main dans la main? Ben, je commence à le douter. Il y en a certains qui commencent à le douter. J'ai lu quelques articles sur différents sites web, notamment en Europe, qui remettent en question leur association parce que, visiblement, il y a un froid parce que, bon, premièrement, tu vas chercher Bottas, ça c'est correct. C'est un jeune d'expérience, c'est un pilote d'expérience qui peut t'amener plus loin. Maintenant, pour moi, si j'avais une association avec Ferrari, bon, ma question serait rapidement répondue. Bon, tu as Giovinazzi, tu as des jeunes pilotes comme Cameron Aylott, tu as des...
Robert Schwartzman aussi.
Comment?
Robert Schwartzman aussi.
Exact, Schwartzman. Tu as aussi Schumacher qui est pogné dans une situation tellement difficile avec Haas. Moi, si j'étais Alfa Romeo, on va chercher Nick Schumacher, tu vas sortir de là. Puis... Donc,
oui.
Si je commence à remettre en doute cette association qui n'est peut-être pas si forte que ça.
Et avant, mais j'aimerais ajouter un nom qui pourrait être très capital pour le futur de Alfa Romeo, Théo Pourchaire, qui est actuellement en Formule 2.
Il n'est pas prêt.
Il n'est pas prêt.
Justement, il faut que tu. Moi, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'il y ait un jeune qui prenne cette place-là. Parce que ça te permet de signer un jeune, je sais pas moi, 2 ans. Le contrat de 2 ans, il va être très heureux de l'avoir en poche. Puis après ça, quand Théo Pourchaire est prêt, tu l'embarques dans la machine. Puis après ça, il va pouvoir faire son travail. Mais t'as raison, ce nom-là est capital dans l'histoire parce que c'est le futur. C'est le futur de la Formule 1. Il est extraordinaire. Mm-hmm. Il a un maniement du volant. Il est absurde à quel point c'est bon. Donc, j'ai hâte de le voir en Formule 1, mais il n'est pas vrai.
Et il a gagné à Monaco à 17
Monaco.
Ans.
Monaco!
À 17 ans! Le gars avait même pas fini ses cours quand il a gagné la course. Moi, à 17 ans, j'étais juste en train de célébrer la victoire des Pingouins. Donc, c'est tout.
Je blague souvent avec mes amis de mentionner à quel point Max Verstappen il était en Formule 1 à tellement jeune qu'il a fait ses cours de conduite dans son pays alors qu'il conduisait déjà en Formule 1. Imagines-tu l'homme qui apprend à Théo Pourchaire à rouler dans les rues alors qu'il vient de gagner Monaco?
Ouais, c'est ça, c'est fou.
Et l'image me fascine.
C'est juste impressionnant. Et c'est aussi peut-être pour ça aussi que pour Frédéric Vasseur, ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'avoir une recrue comme deuxième pilote. Quand ça tu sais dépend. Que le plan de Bottas, c'est de garder Bottas pour les 3 prochaines saisons. Et le deuxième volant, ben, si tu mets par exemple un De Vries et que par exemple Pourchaire, dès sa deuxième saison complète en Formule 2, remporte le championnat ou bien finit dans le top 3 et obtient les points de la super licence nécessaires pour être en Formule 1, ben là, qu'est-ce que tu dis, ben merci, bonsoir à Nick, alors que je sais pas, mais c'est pas un peu logique.
Mais Nick, ça reste un pilote.
Je vais laisser Marc-André, il y avait le droit de réplique.
Dire à un Nick De Vries, ben finalement, on n'a plus de place pour toi, que de dire ça à un vétéran, ça fait plusieurs années qu'il est en Formule 1. Je trouve ça plus... moins moins respectueux si tu fais ça à un vétéran. Donc, ils se mettent peut-être dans une zone difficile, justement dans le contexte où Théo Pourchaire, tu ne sais pas quand il va être prêt. Quand tu dois le lancer au bon moment. Tu ne dois pas le lancer trop tard, tu ne dois pas le lancer trop tôt non plus. Donc, tu dois trouver le juste milieu, puis le juste milieu, il va être quand? On ne sait pas. C'est pour ça que si tu vas chercher un Nick DeVries, premièrement, bon, si l'association avec Ferrari est solide, je vais le mettre entre guillemets, ben, si tu peux tasser un pilote mercenaire, ça ne cause pas de problème, de préjudice. Mais j'ai hâte de voir justement le plan avec Théo Pourchaire. Peut-être que ça va être un vétéran, puis tant mieux si c'est ça. Parce que le plan premier avec Alfa Romeo présentement, c'est d'aller chercher Théo Pourchaire. Ben, ils l'ont déjà, mais c'est de le mettre dans un volant dans 2 ans peut-être.
On sait jamais. Et Anna Maria, pour conclure avec Alfa Romeo avant de passer au prochain sujet, est-ce que tu voulais répliquer à ce qu'on avait dit avec Marc-André?
Non, j'ai juste que je vois pas un Nick DeVries sur la Alfa Romeo, surtout parce que lui, c'est un pilote, c'est Mercedes qui doit faire les pas, et on manquait quand même un coup avec William, ouais. Là, après.
Mais
ça a été pas très bon non plus.
Oubliez pas aussi que Fred Vasseur et Toto Wolff se connaissent bien aussi, donc il y a une relation.
Oui,
aussi,
mais
donc...
c'est ça, il manque à voir qu'est-ce qui se passe avec Ferrari, parce que lui, il le dit directement, on attend, regardez c'est quoi l'accord avec Ferrari. Mm-hmm. Après ça, ils vont décider, j'imagine, c'est quoi ce qui va se passer. Parce que avant ça, je pense qu'ils n'ont rien de clair, parce que s'ils font l'association avec Ferrari, c'est sûr qu'ils n'ont aucun mot sur les deuxièmes pilotes.
C'est vrai. Donc, le cas du deuxième volant est à suivre. Et maintenant que Bottas a été signé chez Alfa Romeo, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Et je pense que...
C'est qui, lui?
Moi, je sais pas. J'ai jamais entendu...
Il sort d'où?
Ouais, il sort d'où? J'ai jamais entendu parler de lui, là. Apparemment, non,
c'est
il...
C'est la grosse surprise, hein?
Ouais, hein?
Grosse surprise.
Ouais, hein? Ouais, je sais pas, son nom me dit de quoi, là. Apparemment, il roule pour une équipe britannique.
OK.
Ouais. Bon. Ouais, apparemment, il a obtenu un podium. Il a déjà un podium, il a déjà des titres de championnat.
Oui, il a obtenu un podium. OK. Ça, c'est entre guillemets.
Ouais, on pourrait dire. Donc, mais on va pas se le cacher.
Il y a aussi un cadeau.
Nommons-le maintenant.
Selon Alonso, il y a aussi un cadeau de Noël, déjà.
Donc, ouais, évidemment, on parle de George Russell. C'est la nouvelle, en fait, de la semaine. Donc,
mais c'est quand même risqué, non?
Ben, c'est ça. Donc,
George Russell. C'est pas risqué, tu sais
non,
pourquoi? Non. pas risqué pour Mercedes. C'est risqué pour Russell parce qu'on ne sait pas.
Oui, non,
c'est bien l'année prochaine.
C'est ça.
Cette année, c'est Red Bull et il fait des mieux, mais la mauvaise affaire, c'est que Pérez n'est pas là pour accompagner, sinon ça serait mieux. Mais Russell y arrive à Mercedes dans un moment où il y a un gros changement de réglementation.
Oui,
c'est parfait.
Parce qu'on ne sait pas, on sait pas à quoi s'attendre, hein? Parce que si les choses ne vont pas très bien pour Mercedes, ça peut les faire l'échec pour lui.
Je suis d'accord. Par contre, quelle était l'avenue pour George Russell? George Russell ne peut pas aller plus haut. Que Mercedes soit bonne ou pas l'an prochain, c'était la position qu'il devait être. Et honnêtement, s'il y a un pilote...
Il manque beaucoup d'expérience. Parce que oui, il y a
honnêtement, fait... Charles Leclerc est entré dans la Ferrari plus tôt que George Russell et il y a eu des très bons résultats. Et en mon sens, George Russell déclasse complètement Charles Leclerc en termes de talent pur de conduite, en termes de... Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais je
te laisse parler, mais tu es un peu trop pompé.
C'est un pilote d'exception. Et selon moi, il est meilleur que Charles Leclerc et il va le prouver, peu importe si sa voiture est bonne ou pas. Tu sais, en ce moment, George Russell a une voiture moins bonne que n'importe quelle voiture que Charles Leclerc a eue. Et regardez ce qu'il fait.
Ouais, on s'entend, la Williams, c'est pas la meilleure voiture.
Mais ça améliore.
C'est pas la même voiture qu'avait Stroll en 2018 non plus.
C'est ça. Mais si je peux me permettre.
Parce que la Tiffy commence à se faire bien. Ça dit quelque chose, hein.
Mais si je peux me permettre, j'ai un petit éditorial aussi concernant toute l'histoire de George Russell. Parce que je suis très content, je suis vraiment content pour lui. Je pense que c'était quelque chose dont on savait depuis longtemps. Mais le truc aussi, c'est que c'est pas Mercedes qui a forcé Bottas à partir. C'est Bottas qui a refusé de prolonger son contrat avec Mercedes. L'autre truc aussi, c'est que, en autant que c'est bien de voir Russell chez Mercedes, il va voir un septuple champion du monde en Lewis Hamilton, je trouve qu'il y a une culture de l'overhype, parce que, en autant, c'est très bon de voir George Russell, on connaît son talent, surtout en qualification, mais j'ai vu tellement de trucs exagérés du genre, est-ce qu'on va voir notre futur, est-ce que ça va être un futur Senna Prost? Est-ce que ça va être comme la fois où Daniel Ricciardo a battu Sébastien Vettel dans un un changement? Mais le truc, c'est que on est dans l'inconnu. Donc c'est ça, c'est
là c'est trop. Je suis avec Aldo, on est, ben regarde, les gens, c'est pas mauvais, c'est pas parce que que je vais pas les donner à Russell qu'est-ce qu'il a, parce que oui, il y a beaucoup de talent, mais c'est vrai aussi que il arrive à Mercedes, il y a pas l'expérience de Bottas qui est arrivé à Mercedes, il y a pas le même feeling. Sa voiture, il s'améliore, fait que, il y a pas l'expérience dans la voiture Mercedes, on dit, oui, il a touché, il a fait très bien, oui, c'était la voiture de Hamilton, c'est pas la même affaire, maintenant, il faut que lui, il travaille. Il va pas voir la voiture de Hamilton,
il faut qu'il fasse
réglages, il faut qu'il travaille avec l'équipe, il faut qu'au moins, il soit capable de combler les vides qui va laisser Bottas, parce que tu sais, Bottas, même si le monde dit ah non c'est mauvais, lui il était là et Russie a fait, Bottas réussissait à faire qu'est-ce que Perez n'a pas réussi avec Verstappen. Il était là toujours quand l'équipe y avait souhait, il est là pour apporter et pas juste dans la course. Et c'est ça que je dis, il faut que Russell il fait l'expérience, pas juste courir, parce que regarde, oui, Leclerc est arrivé à Ferrari, il a beaucoup de talent, mais Vettel était là. Vettel était là et pour lui était bien, parce que tant que Vettel avait les projecteurs sur lui, Leclerc pouvait faire des erreurs, il n'y avait pas de problème parce que personne ne parlait de lui. Mais maintenant que lui est à côté de Sainz, ça se voit plus, Leclerc. Parce que maintenant, on dit qu'il recrée la performance, mais Russell, oui, il est bon, il y a des talents, mais il n'y a pas l'expérience, il sera à côté de Hamilton.
C'est parfait, ça va lui permettre de prendre le temps.
Parce que Hamilton, il va être le tuteur. Il va pas faire le coaching de Russell, c'est sûr.
Moi, je pense que la position actuelle pour Russell est parfaite. Il arrive dans un moment où Hamilton va se battre corps et âme. Surtout si jamais Verstappen réussit à le battre cette année. Il va être fou l'an prochain parce qu'il le veut, son 8e championnat. Donc, Mercedes va s'arranger pour mettre Hamilton dans les meilleures dispositions. Je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Mm-hmm. Ça va laisser le temps à Russell de s'habituer dans sa voiture, de jouer avec ses réglages comme il le fait avec sa Williams. Honnêtement, la Williams, malgré bien que les propriétaires aient recommencé à mettre de l'argent dans cette voiture, jamais cette Williams serait aussi performante sans un Russell. Donc, je mets ma main au feu que l'impact de Russell a été assez grand et qu'il est en mesure de construire des réglages dans une nouvelle voiture. Donc, ça, je ne suis pas inquiet déjà à l'avance. Deuxièmement, ce que j'aime aussi de l'arrivée de Russell l'an prochain, c'est que Mercedes n'a pas le choix de prendre soin de Russell parce qu'ils le savent très bien que l'ère Hamilton achève. Même si c'est le meilleur pilote, on sait qu'il est dans un penchant de vouloir quitter la Formule 1. C'est pas clair ce qu'il veut. Donc, Mercedes n'a pas le choix de penser au futur et de prendre soin de ce pilote pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour que sa future carrière soit belle, qu'il puisse prendre de l'expérience sans que les projecteurs nécessairement soient sur lui pour qu'il prenne le temps de bien...
Oh non, il projet. Sera sur lui le projecteur. Hein?
Oh oui,
ça dépend. Hamilton cherche à avoir son 8e championnat. Je peux te garantir que les projecteurs ne vont pas être vers lui. Ils vont être tournés vers Hamilton. Puis bien sûr, il est possible que l'impact de Russell mette en péril, si jamais Russell ça ne va pas très bien, qu'il mette en péril le championnat de Mercedes. Par contre, chaque jeune peut faire des erreurs. Chaque jeune doit faire des erreurs même pour apprendre. Et oui, honnêtement, quand je regarde ça, Mercedes n'a pas le choix de bien prendre soin de George Russell. Parce qu'en arrière, je regarde actuellement les pilotes futurs de Mercedes. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y a Frédéric Vesti, mais c'est le seul qu'on connaît.
C'est le seul, exact.
Yannick Bailly aussi.
Oui, mais
legit.
Il est très bon pour Alpha, pas pour Mercedes, mais là, c'est vous qui parlez de lui.
Non, mais je te donne Nick De Vries.
C'est pas cool.
Mais honnêtement, je ne vois pas Nick De Vries dans 2 ou 3 ans chez Mercedes. C'est la situation actuelle, mais c'est ça.
Mais moi, je pense que vous avez. Tous les deux, vous amenez de très bons points. Vraiment, vraiment, j'aurais dû aller me chercher du popcorn. En fait, j'en ai pas, mais j'aurais dû aller en acheter. Là, j'habite pas très loin.
Savez-vous quoi, un petit dernier point?
Ouais.
Je commence à craindre pour Red Bull. Je commence à craindre. Parce que là, t'as un duo de feu, selon moi, avec Hamilton et Russell. Si tout va bien, aïe, aïe, aïe.
Le seul
truc... Aïe, aïe, aïe.
Non, mais c'est ça, je me garde un petit gêne parce que les expectatives sont très hautes avec Russell, parce qu'on s'attend les deux fantastiques. Et il dit, dans les cas que ça ne marche pas comme on l'imaginait dans la tête, c'est ça. C'est lui, le perdant, c'est pas Mercedes. C'est Russell.
Ben, non seulement Russell, mais... Oh, vas-y, Marc-André.
Je vais être prêt à prendre le blanc dans quelques années, si jamais vraiment ça ne fonctionne pas. Je vais être prêt à faire mon mea culpa et tout
Attends,
ça. Mais honnêtement, on va devoir être patient avec George Russell, peu importe ce qui se passe.
Non.
Parce que c'est un talent à semer. C'est un talent à semer.
Pour moi, c'est comme Perez. Quand tu arrives à Red Bull, quand tu arrives dans une équipe top, tu n'as pas le droit à l'erreur.
Il a fait des erreurs chez Red Bull pendant des années. Pourquoi ils ont pris leur temps et pourquoi il est aussi bon aujourd'hui? C'est que Red Bull a bien fait sur leur travail.
Il faisait la gueule.
Va aller chercher du popcorn.
George Russell n'aura pas le choix. Mercedes n'aura pas le choix de s'occuper de George Russell comme...
C'est ça l'erreur. On pense que... Mais regarde, parce que il était à William pour apprendre. Il a eu le temps d'apprendre à William. Mais maintenant, il est promu. Il a la confiance. Tout le monde a la confiance en lui. On pense que c'est beaucoup de talent. Il y a même des mondes qui disent qu'il va faire mieux que Hamilton. Fait que quand il arrive, quand tu arrives à Mercedes, tu vas aller... Mais quand vous, si tu donnes la job, non, c'est pas pour faire des erreurs. Les erreurs, tu as déjà fait avant. C'est ça le problème. C'est qu'on perd les erreurs, il était fait. Maintenant, il dit, il faut un peu plus de temps. Non, il n'y a pas le temps. Quand tu arrives là, c'est pas pour avoir le temps, c'est pour faire la job.
Je suis pas d'accord de comparer la situation de Perez avec celle de Russell. Perez est un pilote d'expérience qui arrive chez Red Bull. Et honnêtement, il n'y avait pas le choix de faire le travail. Et présentement, c'est très difficile. Alors que George Russell est un jeune. Je pense que mon argument préféré dans le mien, c'est que c'est un pilote à semer. Et que le fait qu'il n'y ait pas personne en arrière de George Russell, ça lui laisse justement le temps de se dire, OK, on sème ce jeune pilote, cette jeune flamme, parce que c'est notre futur, comme Ferrari a fait avec Charles Leclerc. Ce sont des jeunes où tu n'as pas... Ou Alfa Romeo va prendre Théo Pourchaire, lui. Ils vont en faire quelque chose. Mais c'est Ferrari qui le regarde en ce moment, là. C'est Ferrari qui le regarde puis qui dit, OK, lui, je le veux. Mais... Quand...
Marc-André, tu as dit que Russell est encore mieux que Leclerc, que...
Ben moi, so, je pense
ça,
que...
Ça, à la ça fin, le donne pas le droit de faire des erreurs à Mercedes. C'est ça.
Ben, Charles Leclerc a fait plein d'erreurs en arrivant.
Ben oui, mais il livrait la marchandise aussi. Il a fait des erreurs, mais il a livré la marchandise. Il était devant Vettel.
J'étais garanti, j'ai mis ma main au feu. George Russell va répondre aux attentes l'an prochain. Il va réussir à être un pilote dominant.
OK.
Et il va avoir une meilleure carrière que Charles Leclerc.
OK, mais donc, si, attends, si attends ça, Maria. Si
ça, OK, prends note à tout.
Il est 21h48. Le mercredi, il est 21h48, le mercredi 8 septembre 2021. Alors, c'est noté, c'est dans les archives du bulletin GP. Non, je blague, mais vous tous les deux, vous avez de très bons points, oui, concernant Russell. On est dans l'inconnu.
Mais il a juste dit qu'il était dans l'inconnu, qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On va s'attendre l'année prochaine. La seule chose que j'ai su, c'est que Hamilton a signé 300 jusqu'à 2023 chez Mercedes. Mais 3.
Trois?
Oui.
Je pensais que c'était deux.
C'est deux. Ah, ben, il y a une année d'option.
Non, c'est trois. Il a fait 2022, 2023. Au moins jusqu'à 2023.
Ouais.
Bruh. Oui, c'est ça, parce que ça...
Oh,
ça, c'est moins bon pour toi, Marc-André. Pour Russell aussi.
Ouais. Ah, ben écoute, ça pourra être un duo de feu, mais on verra rendu là.
Ah, on verra, mais je vais boire un brin.
Donc, je pense qu'on a fait le tour du côté de George Russell. Je pense que...
Qu'on en parlera encore prochainement.
Ah oui, probablement certainement.
Notre émission d'avant saison l'an prochain.
Yeah!
Non, mais... Qui sait, peut-être Monza et Latifi donne des surprises et pouf!
Latifi chez Mercedes!
Go Tiffy! Yeah!
Là, là.
Bah tiens, on va aller, là je pense qu'il y a eu des mouvements, on va parler des prolongations de contrat. Prolongation de contrat, surtout chez AlphaTauri, le duo Pierre Gasly-Yuki Tsunoda va rester pour 2022. Des réactions là-dessus, moi je pense que c'était
évident.
C'était normal. Évident.
Oui.
Je pense que
c'est bien pour mais je trouve que le fait que Yuki il reste chez AlphaTauri, ça veut dire que il reste une petite collaboration avec Honda encore. Même si les moteurs ils changent de nom, mais je pense que ça. Si lui reste là, c'est parce que Honda il y a encore un petit appui sur Red Bull qui n'est pas mauvaise chose.
Bah, oui, je pense. Ben, tu sais, Honda n'ont jamais démenti qu'il allait quand même rester proche de Red Bull dans les premières années. Donc, oui, je pense que ça a peut-être un lien. Il y a aussi le fait que chez Red Bull, présentement, les jeunes bons espoirs sont plus jeune, disons, que d'habitude. Donc, le seul qui reste pas mal, c'est Yuki Tsunoda. Et il a passablement bien fait, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de sacres, beaucoup de tout. Mais c'est un pilote qui a démontré quand même ses habiletés en Formule 1. Lui aussi, on va devoir être patient. J'ai de la misère à identifier son plafond, là, ou son plancher, disons. Mais j'ai hâte de voir. Je pense que c'est une collaboration à poursuivre entre les deux. Mmh. Maintenant, Pierre Gasly, c'est une évidence. Quel pilote. Il aime cette voiture, ça paraît. Et il va pouvoir continuer pendant un an.
Oui, effectivement. Et puis, je dois dire aussi, du côté de Pierre Gasly, je sais que il a toujours le volant chez Red Bull en mire, mais je dois lui dire, à moins que que Red Bull décide de ne pas garder Pérez, je pense qu'elle devrait attendre en 2023. Donc.
Puis je pense qu'il est prêt à faire ce sacrifice parce qu'il va justement pouvoir prendre du recul, continuer son travail de développement pour justement affronter un monstre comme Max Verstappen
À nouveau.
à nouveau, de
Ouais.
le retenter. Ça va
Mais
prendre de la
c'est
force
ça.
mentale également là,
Il
parce
faut
qu'il
que.
s'est fait casser complètement par Verstappen, il s'est fait casser par Helmut Marko, il s'est fait casser par Christian Horner publiquement sans jamais, honnêtement, ils ont été assez durs envers lui durant des entrevues, durant de nombreux tout ça. Donc, je pense que le retour de Pierre Gasly, lorsque ça arrivera, si ça arrive un jour, ça va démontrer à quel point cet homme est fort mentalement
Ouais.
et que son potentiel est bon justement à cause de cette force mentale.
No,
Effectivement. Il doit rentrer dans la tête s'il arrive à Red Bull que lui est pas, il est pas là pour se battre avec Max. C'est ça le problème.
Ouais, c'est
Il est
vrai.
pas là pour se battre avec Max, il est juste pour se battre, pour faire le mieux pour l'équipe. Et je pense
Mais en
que
même
c'est là
temps,
l'erreur aussi de Pérez. Et
Gasly l'a
lui,
montré qu'il était capable de forcer justement. Écoute, il a quitté Red Bull durant une saison. Il est revenu chez AlphaTauri. Qu'est-ce qu'il fait? Top 10, super belle course. Il reprend sa forme comme si cette voiture, elle lui appartenait. Moi, je pense que ça dénote justement de sa force mentale et qu'il va être capable justement de faire la part des choses maintenant. De OK, Verstappen, il est indélogeable. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me prouver, je peux prendre des pole positions à l'occasion pour justement aider l'équipe à monter sur les marches du podium.
Ouais,
Et on
effectivement.
est encore loin, t'sais, on va se dire, 2023, c'est loin. Pour l'instant, Perez est encore là. Donc, on verra.
Effectivement. Et on va passer maintenant de Red Bull à un autre, ancien, actuel, je sais pas. Marc-André est encore en train de célébrer. On a appris ce matin, et cette fois-ci, c'est pas en me levant que j'ai appris la nouvelle. J'ai appris on the spot, à 8 h du matin, j'étais levé depuis 7 h, que Alex Albon allait revenir en Formule 1, cette fois-ci avec Williams, aux côtés de Nicolas Latifi pour 2022. Je vais commencer avec Marc-André parce que je te vois, j'ai peut-être un autre écran, mais je te vois en train de célébrer. Alors, veux-tu réagir à cette...
Mais je suis content. C'est un jeune pilote sympathique, plein de vie, très souriant, une vie difficile et avec beaucoup de labeur pour réussir à entrer à Formule 1. Ça a une vie familiale pas toujours facile non plus. Et malgré tout ça, il ressort avec force. Il réussit à entrer en Formule 1 de manière complètement surprise. Arrive chez AlphaTauri parce qu'il y avait un siège disponible et Red Bull lui a redonné une chance. Ensuite, réussit à déloger Pierre Gasly par ses bonnes performances. Et ensuite, bon, ça s'est un peu gâché, bien sûr, encore une fois, lorsqu'il s'est mis à affronter Max Verstappen dans une deuxième saison consécutive. Mais je trouvais que la conséquence était quand même forte, qu'il quitte la Formule 1 en raison d'un échec contre Max Verstappen. Je trouvais que la conséquence était forte. Et enfin, disons, le tambour a sonné et là, le bâton revient et on va pouvoir recommencer à frapper sur le tambour avec Albon. Il va pouvoir recommencer à travailler sur une voiture, recommencer à vivre les sensations qu'il préfère, ce qui est de faire de la course automobile. Et moi, ça me rend heureux. En plus, on retrouve le trio dynamique, George Russell,
Oui.
Alex Albon et Lando Norris, trois
Et
super bons
voilà.
amis qui nous donnent des spectacles amusants sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis heureux. Tout est parfait.
Anna Maria, tu veux avoir la réaction de Marc-André quand il a appris la nouvelle?
Oui.
Attends, je l'ai en direct.
Et boy.
Censure, ce n'est pas vrai.
Ah,
Ce
fake news, fake news. Ouais, ouais, c'est ça. Anna Maria, maintenant, est-ce que Nicolas Latifi qui revient en 2022. Alors,
oui.
Est-ce que c'était un choix logique pour Williams de garder le Torontois?
Il n'y avait pas le choix, je pense.
Ouais.
Et c'est un choix logique parce que, quand même, si tu regardes sa voiture, Sofina, c'est ça.
Je suis désolé, mais c'est juste parce que Marc-André, il a fait le signe de pièce. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu. Mais
des fois, je parle parce que le monde, il aime ça, beaucoup parler d'Estrol. Je dis, mais personne ne parle de Latifi.
C'est vrai. Latifi, c'est de l'argent, c'est du financement.
Mais oui, c'est ça. C'est
des financements. Il vous rend heureux au Canada présentement et un peu au Québec, parce qu'il y a un peu du sang québécois, mais c'est que présentement, il réussit à donner de bonnes performances, même en qualification, dans les derniers Grands Prix. Et là, ne partons pas en peur, ça ne veut rien dire, mais on voit un Latifi avec de la vie. On n'avait pas vu ce Latifi se battre pour des positions. Il était blanc comme neige, il n'avait rien à donner. On ne voyait jamais Latifi, on ne parlait jamais de lui. Jamais tu voyais une vidéo de Latifi sortir parce que il était transparent. Et là, il est plein de vie. Et moi, ça me rend heureux parce que c'est pas juste du financement depuis les dernières semaines. C'est un pilote qui ressort du lot par ses bonnes performances qui sont, disons-le, très potables pour un pilote de sa stature dans une voiture comme ça. Donc, on verra pour la suite. Mais c'était très logique de le faire. Et en plus, ben, tu le joins à un pilote qui a de l'expérience, ben un petit peu d'expérience, ouais. Très peu d'expérience, mais ils vont pouvoir travailler ensemble pour remonter la pente et clouer le trou béant que George Russell laisse en quittant vers Mercedes.
Mais j'étais surprise quand même parce que je ne m'attendais pas. Voir Albon sous Williams. Continue la collaboration entre Mercedes et William, je m'attendais un peu plus. Oui, Annick Devry, je dis, OK.
Tout ça, ouais.
Mais je pense que de la façon que Red Bull est annoncé ça, ça a l'air que, il y a un manque de jugement de la part de M. Walls. Il s'attendait sûrement à que William touche à sa porte et c'est Red Bull qui a pris l'avance.
Ouais.
C'est fou.
Oui, c'est Red Bull qui a pris l'avance et de la façon comme en Red Bull, il parle d'Albon, c'est comme s'il posait son pilote sous William. Et,
ben écoute, aujourd'hui, c'était sur les réseaux sociaux, c'était « Oh, ben félicitations! »
Oui, c'était comme Albon,
c'est un retour en Formule 1. Oui. C'est un petit peu grâce à nous, c'était sous-entendu, mais, comme on dit.
Mais oui, parce qu'il disait qu'ils ont travaillé juste pour la gestion volante, ils ont réussi à trouver le volant, fait que c'est ça, on sous-entend que c'est la négociation avec Red Bull qui a donné fruit. En plus, Red Bull, ils sont bien avec sa nouvelle unité de potence qui était Honda, mais qui sera renommée Red Bull et que peut-être... On ne sait pas. William, il sent bien. Aussi, il parlait de que Toto Wolff n'était pas à l'aise à la collaboration.
Est-ce qu'on pourrait parler de...
soit chez William, parce que...
Est-ce qu'on pourrait parler d'une guerre psychologique gagnée par Red Bull?
Un petit coup.
Moi.
Ouais, mais
Le championnat n'est pas donné encore, mais...
Mais attention! Si je vous disais Volkswagen était dans les plans pour aller en Formule 1, parce que il faut pas oublier, Jos Capito a été en rallye avec Volkswagen qui avait un partenariat avec Red Bull. Donc, et en plus, il y a une discussion. Je viens de lire ça dans The Race. Il y a une autre discussion. Entre les manufacturiers de moteurs et Volkswagen a été invité. Et c'est pas la première fois cette année. Il y en a eu une en Autriche aussi pendant le programme double. en Autriche. Alors, peut-être que ça peut jouer avec essayer de d'avoir peut-être un deal avec Volkswagen dans les prochaines années. Donc,
c'est beaucoup plus intéressant pour Volkswagen d'entrer en Formule 1 avec deux écuries.
Au 3.
Au 3, oui, avec AlphaTauri. Vous avez raison.
Il y a Red Bull.
Il y a AlphaTauri dans le thème.
Et en plus, il n'y a pas besoin à développer quelque chose parce que c'est sûr que maintenant, Red Bull, il y a ça. Il y a la unité de potence. Il juste dire à quelqu'un si où il fait, c'est juste mettre le nom dessus.
Ouais.
Imagine si Red Bull réussit à faire ça.
Oui, c'est juste mettre le nom dessus et c'est fait.
Ça serait exceptionnel.
Ben, et là, juste pour revenir avec Volkswagen, on parle de 2025. Donc, lorsqu'il y aura la nouvelle formule des groupes propulseurs, en fait, qui vont être introduits en Formule 1, ben, peut-être qu'on pourra voir l'arrivée de Volkswagen / groupe Audi, on ne sait pas, mais peut-être que le deal d'Albon Williams est peut-être un début, ben, juste une question de faciliter un peu l'arrivée, mais ça, évidemment, on n'est pas dans les secrets des dieux, non, premièrement, mais on ne sait pas quelle sera la décision finale de Volkswagen, mais on peut croire que peut-être qu'il y a un lien derrière tout ça aussi. Donc, on a fini de parler du marché des transferts en tant que tel. On va parler d'une écurie qui a fait parler d'elle, mais pour les mauvaises raisons, malheureusement. J'ai vu une vidéo aujourd'hui du YouTuber Perspective qui parlait de Haas, parce qu'il faut rappeler que lors du Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier, lors des qualifications entre autres, il y a eu un genre d'imbroglio où Nikita Mazepin est sorti devant Mick Schumacher avec l'accord des ingénieurs et de Gunther Steiner. Et ensuite, Mick Schumacher l'a dépassé avec l'accord de son ingénieur de piste, ce qui a frustré Mazepin. Et ensuite, vous avez vu les images de Mazepin qui essaie de se tasser pour laisser passer Vettel au virage numéro 13. Et il y a eu la convocation des deux pilotes Haas et Vettel pour voir est-ce qu'il y aura une pénalité ou pas, ce qui n'y a pas eu lieu, ce qui n'y a jamais eu. Ensuite, le lendemain, lors de la course, eh ben, dans le premier tour, Mazepin et Schumacher se battent pour la dernière place, legit, ben, pour les dernières places, en fait. Puis, Schumacher essaie de dépasser Mazepin sur la longue ligne droite avant l'entrée des puits. Et ensuite, ben, Mazepin bloque Schumacher un peu de dernière minute et Schumacher doit s'arrêter pour changer d'aileron avant, ce qui ruine sa course en tant que telle, et Mazepin a dû abandonner un peu plus tard avec des problèmes hydrauliques. Mais évidemment, il y a eu de la frustration de la part des deux pilotes, et c'est pas la première fois que ça arrive. Lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan dans le dernier tour, Mazepin a fait la même chose à Schumacher en course, c'est-à-dire le bloquer dernière minute. C'était borderline, c'était limite dangereux, mais c'était légal. Mais là, on commence à remarquer qu'il y a de la tension chez ces écuries. Et je sais que Mazepin n'a pas une très bonne réputation, et avec raison, il faut le préciser. Mais je vois que Haas est en train, je sais pas si pour vous, Haas est en train de regretter la décision d'avoir choisi deux recrues, surtout quand ils essaient de se préparer pour 2022, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, alors je sais pas, il commence à avoir de la friction dans l'équipe entre les deux pilotes.
Veux-tu y aller, Anne-Maria? Écoute, pour moi, je l'ai dit à la base, c'était une erreur d'avoir deux recrues comme ça. Deux recrues qui ont une tête dure. Mazepin, il a une tête dure. Mick, c'est le fils de Michael Schumacher qui a une énorme tête dure. C'est clair que le fils était pareil que lui. Donc, ça allait faire de la flamèche, c'est sûr. Puis, là, on voit les fruits de cette mauvaise décision. Haas a réfléchi à l'argent avant la raison, et c'est ce que ça donne présentement. C'est dommage, c'est vraiment dommage ce qui se passe, parce que tu ne mets pas tes deux pilotes, tu ne mets pas les deux jeunes dans de bons environnements pour la suite de leur carrière. Tu sais, tout le potentiel que tu pouvais obtenir d'un jeune présentement, tu es en train de le casser parce que, premièrement, ils ne sont pas capables d'avoir des bons résultats avec la voiture. Ils ne sont pas en mesure de s'aider mutuellement pour que la voiture soit meilleure. Et c'est indispensable, déjà à la base. Deuxièmement, tu as deux jeunes qui sont un peu tête de coque. Les deux veulent se battre entre eux pour sortir de la tête de l'eau puis espérer qu'une écurie ailleurs les voit pour enfin sortir de cet environnement nocif-là. Et présentement, ça donne le résultat du moment.
Avant de donner le droit de réplique à Anna Maria, j'aimerais répliquer à Marc-André, parce que le truc aussi, c'est que moi, on l'a vu aussi dans Drive to Survive, la discussion avec à Karl Rusch, avec One and One, la compagnie, le commanditaire personnel de Mick Schumacher. Je comprends, l'argent est une raison, et c'est comme ça aussi en Formule 1. Money, cash is king, comme le dit si bien Lewis Hamilton. Mais en même temps, Mick Schumacher, il y en a beaucoup qui disent, oh, il faut qu'il sorte de son environnement, que Mazepin est en train de tout détruire. Je comprends, Mazepin est le vilain dans l'histoire, et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. On sait pourquoi, à cause de son passé en piste et hors piste aussi. Mais est-ce que vraiment Ferrari aurait envie de le mettre chez Alfa Romeo quand il n'a pas tellement prouvé grand-chose cette année? Je sais que ça pourrait être bénéfique d'avoir un Bottas, mais comme on l'a dit, Alfa Romeo a un Théo Pourchaire. Donc, c'est un peu une situation compliquée pour Mick et pour Haas aussi, parce que c'est un peu on est en train de revivre un peu la même dynamique entre Kevin Magnussen et Romain Grosjean, et je dis bien en piste. En piste, mais parce que les deux s'entendaient quand même bien à l'extérieur, mais en piste, ils se battaient, puis ça nous a donné ce fameux moment.
He does not fox mash my door.
Donc c'est ça, on a beau rire de ce moment, de ce mime, de ce désormais mime, mais ça montre aussi que Haas est en train de perdre un peu pas Haas en tant que tel, mais plus Günther Steiner est en train de perdre le contrôle.
Mais qu'est-ce que je pense? Je pense que Haas y a fait un peu comme Lotus. Quand il a engagé Maldonado, il faisait que pour entre guillemets pour l'argent, fait que à la fin il disait j'ai le financement, ça me dérange pas, qu'est-ce qu'il fait le pilote, qu'est-ce qui s'est passé, que oui, Mazepin il y a une mauvaise réputation, ça traîne avec lui, mais le problème, c'est que lui, il arrive à Formule 1, quand même, il était pas si pire. Il était pas si pire. Il sait, lui et où. Et je pense qu'il a pas fait assez d'erreurs comme on s'attendait. Il n'a pas fait les mauvais personnages non plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui, il réclame. C'est lui quand même qui amène l'argent dans l'équipe. Et il dit, pour moi, il n'y a pas de danger. Tout le monde l'aime. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, tout le monde l'aime. Et c'est ça que je pense qu'il est en train de déranger. Que tranquillement, la première fois que Mazepin s'est exprimé, il a dit que c'est sûr, Mick, il y a Ferrari sur lui, il y a l'Académie Ferrari, il y a Vettel qui l'est. Tout le monde y est pour l'aider. Même quand il fait des erreurs, son ingénieur, il est presque donné
en train de lui flatter le dos, genre.
De lui flatter le dos pour, c'est ça. Et lui, Mazepin, il commence à avoir assez, j'imagine. Et quand, en plus, il n'écoute pas les consignes, c'est là qu'il explose. Et lui, il a une mauvaise réputation. C'est sûr que personne ne va dire, oui, mais Mazepin a raison. Et en plus, il sort dans la presse, qu'est-ce que, Mazepin, il s'exprime, il dit qu'est-ce qu'il sent, mais lui qui fait comme peu les jeux, les bons garçons, hein, non, je sais pas de quoi est-ce qu'il lui parle, qu'est-ce qui se passe, non, mais je fais ma course, c'est ça. Lui, il s'en sort très bien. Et il sait, Mazepin, qui est en train de perdre patient, mais s'il faut qu'il fasse attention, parce que, oui, on pense que Mick, il peut aller chez Alfa Romeo, mais s'il n'y a pas d'association avec Ferrari, c'est Mazepin aussi qui peut aller chez Alfa Romeo, avec tout ce que, qui va ça. Avec. qui est pas, ça mettrait un peu dans l'embarras à As.
Ben, c'est ça, c'est que le truc aussi, c'est que...
Il ne reste plus parce que il reste plus de... Latifi est chez William.
Mais aussi, le truc, c'est que moi, je pense que... Ben, on l'a dit, on ne le répétera jamais assez, c'est une erreur monumentale de Haas d'avoir été chercher deux recrues. Essayez au moins de négocier avec au moins Kevin Magnussen pour rester une saison de plus, au moins, pour aider une des deux recrues, que ce soit Mick ou Mazepin. Mais là, j'ai eu un flash. Haas est en train de faire un peu comme Williams en 2018, même si Lance Stroll avait une saison dans les roues, une saison dans le corps, mais Sergei Sirotkin était une recrue. C'était le duo le plus jeune en 2018. Et même si la voiture n'était pas très bonne, les pilotes n'ont pas livré la marchandise. Alors.
Mais oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sirotkin? Il est parti, lui est parti parce qu'il dit non, il est en train de perdre l'argent, il est Stroll aussi, il est parti.
Ouais, parce que son père est allé racheter
Force India. Ils ont parti aussi parce qu'il n'y avait pas de résultats. Il n'y avait pas de résultats chez William. C'est ça ce que disait Sirotkin, c'est mieux aller n'importe où que rester à juste donner l'argent pour rien.
C'est ça. Donc, parce qu'il était parrainé par SMP Racing qui a quand même une bonne base de pilotes, entre autres. Il y a eu Michael Aleshin, même si, ils n'ont pas été nécessairement Formule 1, mais quand même. Mais le point est que je pense que c'est pas seulement les pilotes, mais c'est aussi Gunther Steiner, parce que je pense qu'il va falloir, on a vu sur comment il est, mais il va falloir qu'il soit un peu plus imposant et que Jane Haas mettre son grain de sel aussi, parce que c'est son écurie à lui. Donc, je sais que c'est un peu plus difficile parce qu'il est aux États-Unis, il doit s'occuper aussi de sa compagnie d'outils, de Stuart Haas aussi en NASCAR. Alors, je crois que le problème aussi, c'est que Haas doit s'en mêler aussi un peu plus. Je sais qu'on connaît pas les détails, on n'est pas aussi, on est juste des fans, on s'entend.
Mais dès qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu à Drive to Survivor, c'est que Gunther Steiner, il prend pas ça au sérieux. Pour lui, c'est un peu un jeu. Oui, il se fâche, il sacre tout le temps, et c'est tout.
Ouais, ça, il y a la caméra. ouais, exactement. Mais, Marc-André, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin concernant Haas?
Ben écoute, pour ce qui est de Haas, je pense que ça va prendre une gestion bien meilleure, ça c'est sûr. Mm-hmm. Maintenant, du côté des pilotes, je pense que c'est visiblement une ratée. Puis on va devoir prendre justement toutes les mesures pour que ça change. Maintenant, comment, c'est une grande question. Parce que comme j'ai dit, ce sont deux pilotes qui visiblement veulent sortir de la tête de l'eau, puis ils sont dans l'impossibilité parce que la voiture ne leur offre pas rien non plus. Donc, ils sont comme dans un cercle vicieux et ça va mener à des accrochages. Ça, c'est sûr. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et l'avenir de cette écurie, honnêtement, je la vois très mal. J'ai de la difficulté à la projeter dans le futur. On sait que Jean Haas voulait comme arrêter de financer l'écurie. Finalement, il a recommencé. On sait pas trop ce qui se passe. C'est l'an prochain... L'argent va tous pour l'an prochain, puis si l'an prochain ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout ça pour dire que dans mon mot de la fin, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ces deux pilotes-là. J'espère que ce ne sera pas le même duo pour l'an prochain. Peu importe ce qui va se passer.
Je suis désolé, Marc-André, mais...
Ça va l'être.
En fait, ce sera le... À moins que Alfa Romeo décide...
Exact. C'est la seule possibilité.
Mick Schumacher, mais je pense que ce sera le duo pour l'année prochaine.
Un autre calvaire l'an prochain.
J'ai de la misère au calvaire.
Ouais.
Donc,
termine bien.
Ça termine bien sur de la chicane.
Peut-être sur mettre le lien pour nos amis français.
La chicane qui est un groupe qui était un groupe de musique québécois en fait. Donc c'est sur cet interlude musical, ça complète notre 88e.
On est assez complet chez le bulletin F1 GP quand même.
Ouais,
soccer, musique, hockey,
football.
Football.
Non. Écoute, la saison de NFL commence demain.
Argentine, en fait. Brésil, on va pas parler de ça.
Non. Non. Non, y a rien là-dessus en lien avec la Formule 1, malheureusement, à part...
Pause de plaisanterie.
Ouais. Donc, c'est ce qui complète ce 88e épisode du Bulletin GP. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Italie. Et n'oubliez pas, il y a la deuxième qualification sprint. Donc, les horaires ont changé. Oh. Alors, mais... j'ai rien vu. Donc... il y aura l'émission d'après-course dimanche à 11h30, heure du Québec, et à 17h30, heure de France, donc après le Grand Prix d'Italie. On sera disponible sur nos pages Facebook et Twitter, @lebulletingp, ainsi que sur notre compte Twitch, @lebulletingp. Puis le tout sera aussi disponible un peu plus tard en format podcast et en format YouTube. Sinon, vous pouvez écouter cet épisode sur toutes vos plateformes de podcast préférées, ainsi que les anciens. Il y a aussi Histoire de F1 qui parle des écuries canadiennes, qui est disponible sur toutes vos plateformes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et compagnie, ainsi que sur bulletingp.com où vous pouvez lire les avant-courses et les top et contre-performances après chaque Grand Prix. Alors, Anna-Maria, Marc-André, un énorme merci d'avoir été là.
Merci à toi, Abdou. C'est toujours un plaisir.
Il y a eu un bon débat houleux, donc j'aime ça. Mais prochaine fois, je vais amener le popcorn. Alors,
sans faute.
Sans faute, effectivement. Alors, merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve dimanche pour l'après-course en direct du Grand Prix d'Italie. Et sinon, la semaine prochaine, pour l'épisode numéro 89 du Bulletin GP. Salut tout le monde!
Salut à tous!
Salut!